Jacques Ellul s'intéresse au phénomène technique dès les il est assez jeune, il est à 22-23 ans, dans les années 1934. Et avec son ami Bernard Charbonneau, qui est aussi un très grand penseur, moins connu que lui encore, ils vont élaborer une, j'oserais pas dire une théorie, mais une conception du monde, ou une vision de leur société plus exactement. Et ils vont arriver à cette conclusion qui restera la ligne directrice de leurs œuvres respectives, c'est que la technique est devenue aujourd'hui, au XXe siècle, enfin à leur époque, le facteur déterminant. Le facteur le plus déterminant, hein, ce qui conditionne, ce qui façonne le plus notre société. Alors, et ils en arrivent aussi à la conclusion que cette technique, qui était, je dis bien qui était, censée nous libérer d'un certain nombre de servitudes, elle devient elle-même source de servitude, source même d'aliénation. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'elle se développe, elle génère des problèmes, de nouveaux problèmes qui deviennent aliénants. C'est-à-dire que, pour caricaturer, nous étions sous la servitude, enfin, sous un certain nombre de contraintes produites par la nature, et au fur et à mesure qu'avec la technique nous domptons, nous apprivoisons la nature, nous essayons de faire en sorte de l'accommoder, hein, eh bien, les outils par lesquels nous, cherchant à maîtriser les effets de la nature, eh bien, deviennent aliénants. Donc, on est bien d'accord. Mon exposé ici va traiter sur, finalement, sur va porter sur la question, aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, est-ce que la technique est plus source d'avantages, elle est les deux forcément, hein, on ne va pas tourner autour du pot, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi davantage source de danger, hein, on pense évidemment à Fukushima, de dérèglement, on parlera peut-être tout à l'heure de l'économie et notamment de l'algo training, vous savez, ce phénomène, on confie aux machines un certain nombre de transactions financières, l'homme se met complètement, et parce que les choses, il faut aller très vite, il faut produire beaucoup beaucoup d'opérations financières en un minimum de temps, donc les hommes les confient, donc. Et l'idée, le maître mot de la théorie des Lulles, c'est autonomie. La technique est devenue autonome. Et on arrive de plus en plus mal à la contrôler. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure le topo de Christophe sur comment, je pense qu'on va y revenir tout le long du festival, comment l'homme peut-il, les citoyens que nous sommes, peuvent-ils contrôler les opérations quand on sent que vraiment elle nous échappe à ce moment-là, il y a une certaine inquiétude. Donc c'est de cela qu'on va parler ce soir. Alors, pour essayer d'être le plus concis possible et à la fois bien avancé dans notre sujet, je vais vous proposer la méthode Jacques Ellul, c'est-à-dire on ne peut comprendre véritablement le fait présent qu'à partir du moment où on l'inscrit dans un processus historique. Donc on va faire un tout petit peu d'histoire. On ne va pas remonter à l'Homo sapiens, on ne va pas aller jusque-là, mais on va démarrer à la fin du XVIIIe siècle, parce que à la fin du XVIIIe siècle, il y a un véritable tournant. Bon, tout le monde sait ce que c'est que la révolution industrielle, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais disons qu'il y a, c'est un temps où les techniques, je dis bien les techniques, se multiplient et vont façonner notre environnement. Hein. Alors d'abord, les grandes villes, hein, les grandes métropoles, mais les les voies de chemin de fer, les canaux, etc., les transmissions, l'électricité, etc. Bon. Tout cela va façonner nos paysages, va transformer nos paysages. Et une idée forte de Jacques Ellul, c'est finalement... notre environnement initial pendant des siècles, des millénaires, en fait depuis l'origine des temps, c'était la nature, et finalement les techniques en se développant deviennent un nouveau milieu environnement. Alors évidemment ici à Trescléou c'est peut-être moins voyant que donc à la Défense, mais il faut quand même bien savoir que à partir du XVIIIe siècle il y a un fort exode vers les villes rurales, donc vers les villes, et donc l'essentiel pour les hommes, enfin, et puis c'est là que se prennent, c'est dans les villes que se prennent les grandes décisions, donc c'est dans le milieu urbain, donc la technique va devenir un nouvel environnement et du coup va servir de cadre, de référence. Or, ce qui va... Alors, vous parliez tout à l'heure du désenchantement du monde. Bon, c'est une formule de Max Weber reprise par Marcel Gauchet. L'idée, c'est... Ah bah oui, finalement, on met des usines, on met des telles infrastructures, hein, et la nature, elle est désenchantée. Je dis bien la nature. Alors, sur la notion de désenchantement de la nature, évidemment, j'y souscris. À point tel que la pollution, n'est-ce pas, le phénomène de la pollution, c'est la preuve patente donc d'un désenchantement, et je dirais d'une désacralisation de la nature par les moyens techniques. Mais est-ce que pour autant on esquive le sacré? Ah oui, on ne sacralise plus la nature. Mais est-ce qu'on ne sacralise pas autre chose? Eh bien, si, nous disait Ellul et Charbonneau, ce qui va être sacralisé, c'est ce par quoi la nature a été désacralisée, c'est-à-dire la technique. Alors, reste évidemment la grande question, c'est qu'est-ce que sacraliser? Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon exposé. Je voudrais revenir, parce que c'est très important, sur ce moment du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a, le XVIIIe siècle est un temps d'une... il y a un grand nombre de transformations qui s'opèrent, économiques, techniques bien sûr, économiques et politiques. Et notamment dans notre pays, avec le pouvoir qui appartenait jusqu'alors aux aristocrates et qui passe à la bourgeoisie. La bourgeoisie existait avant le XVIIIe siècle, elle détenait une grande part du pouvoir économique, hein, les banquiers, enfin, ça, on remonte au XVe siècle, les Médicis, etc. Mais à partir du XVIIIe siècle, le bourgeois va prendre le pouvoir. Et la grande différence entre l'aristocrate et le bourgeois, c'est que le bourgeois a une valeur que n'avait pas du tout l'aristocrate, c'est le travail. C'est-à-dire que l'aristocrate fait travailler les autres, mais ne se salit pas les mains. Le bourgeois, lui, va faire travailler les autres, il va faire travailler les ouvriers, mais il va travailler lui-même. Ce n'est pas un col bleu, c'est un col blanc, mais c'est un travailleur. Et le bourgeois, qui donc détient les capitaux, va... Alors là, je me fais, si vous voulez, je vous fais très rapidement un petit résumé d'un livre dont je vous recommande la lecture, qui est Métamorphose du bourgeois, de Jacques Ellul, donc qui date de 1967. Mais c'est très important, je vais essayer d'être le plus concis possible, mais c'est pour moi la condition, je dirais sine qua non, pour rentrer dans le vif du sujet sur le rapport entre confort et conformisme. Pour créer ce nouveau milieu technique, il faut bosser. Il faut travailler, il faut des usines, bon, il faut se fatiguer. Bon. Pas facile, il va y avoir des grèves, il va y avoir des mouvements sociaux. Mais le bourgeois, il a un argument qui fait que finalement, malgré les soulèvements sociaux, etc., les mouvements de contestation, bon, évidemment, certains sont réprimés, mais ce qui marche, c'est quand même l'argumentation, plus que les armes, plus que la police, c'est il va réussir à convaincre le monde ouvrier que le travail, c'est une valeur. Quand on dit que la société s'est embourgeoisée, c'est ça que ça veut dire. C'est que la société, l'ensemble de la société a finalement fait sien la valeur suprême de la bourgeoisie, c'est le travail. Et comment la bourgeoisie arrive-t-elle à convaincre l'ouvrier que ça vaut le coup de trimer, que... Bon. Je vous rappelle, le XVIIIe siècle, c'est, nous sommes dans une phase de déchristianisation profonde. Alors, la référence pour les humains, c'était donc l'Église, la religion catholique. Ça ne veut pas dire que tout le monde était chrétien. On est chrétien, comme aujourd'hui on est athée d'une certaine manière. Mais c'était la référence. Et à partir du moment... de ce moment-là du XVIIIe siècle où il y a une déchristianisation, il y a en quelque sorte un glissement, c'est-à-dire que l'équivalent du paradis, hein, de l'au-delà, on faisait les bonnes œuvres parce que là-haut, on aurait une bonne place. Eh bien, il y a un glissement, c'est si tu travailles, tu auras... Ta bagnole, tu auras ton chauffage, tu auras ton électricité. Le fordisme, c'est exactement ça. Le fordisme, c'est la caricature de ce que je vous dis. C'est Henry Ford, c'est si tu bosses, tu auras ta Fordeté, celle que tu trimes là, avec, tu l'auras. Et de fait, Henry Ford tient ses promesses. C'est-à-dire que l'ouvrier, il a sa bagnole. Alors, en quelque sorte... l'idéologie du travail, on peut parler d'idéologie, hein, puisque à partir du moment où le travail est érigé en valeur, il y a une idéologie. L'idéologie du travail, elle découle de l'idéologie du bonheur. Ce que la formule d'Ellul, c'est l'idéologie du bonheur. Alors, le bonheur, on a en tête la phrase de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve. 1794, c'est un révolutionnaire donc qui dit ça. Le bonheur est une idée neuve. Et puis l'article 1, la Constitution de 1780, par là, 93, 95, c'est le but de la société et le bonheur commun. Et les philosophes anglais, français d'abord, enfin, les encyclopédistes, Rousseau, mais l'anglais aussi, les Bentham, et j'oublie leur nom là, les utilitaristes, se réfèrent aussi au bonheur. Mais attention, un bonheur très très, une conception de bonheur très très particulière qui est liée en fait au bien-être et au bien-être matériel. Ça n'a rien à voir avec le bonheur des bouddhistes ou la béatitude. C'est quand Saint-Just dit cela, je pense qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce bonheur-là, c'est le bien-être. Bien-être matériel. Bien-être matériel. Le confort en fait. Alors. C'est très important parce que je reviens, je fais juste une petite aparté sur ce que disait Christophe tout à l'heure sur l'importance, les citoyens qui doivent reprendre le contrôle par rapport à ce qui se fait, ils se sentent pas. Là, on a une approche tout à fait différente, c'est que aujourd'hui, si on suit ce schéma-là que je viens de vous dire, eh bien, on est manipulé par personne. C'est nous-mêmes, nous tous, les individus, qui sommes très attachés à notre confort et ce qui fait qu'on va travailler, on va se fatiguer. Tiens, oui, on se dit, ah oui, mais regarde, t'as vu mon dernier écran plat, etc. Il y a le confort est en quelque sorte, la recherche du confort matériel est en quelque sorte le moteur de la technique. Alors, par rapport aussi, je pense que l'articulation science, technique, liberté, enfin, vous allez voir que je vais parler très peu de science là, parce qu'en fait, la science, elle est seconde par rapport au phénomène technique. Elle est seconde. On prend l'exemple d'Einstein. Einstein, c'était un grand scientifique. Il a été complètement, et comme d'autres, Oppenheimer et d'autres, ils ont été complètement dépassés. C'est-à-dire qu'ils ont été dépassés parce que la technique suit un développement autonome. La fameuse phrase « on n'arrête pas le progrès », c'est un peu ça qu'elle veut dire. On ne l'arrête pas, mais ça veut dire pourquoi on ne l'arrête pas? Parce que ce qui va générer le développement de la technique, on parle aujourd'hui des technologies, c'est... ah oui, mais j'ai ce dernier truc, là, mon dernier. Ah oui, mais là, j'ai pas assez de mémoire. Et hop, tac, on va trouver une extension, un machin, etc. Et c'est devant notre usage, on a un usage, et puis, ah zut, ça va pas, ben, pas de problème. On a quelqu'un, un industriel, Apple, Microsoft, qui va nous pondre le truc, le dernier machin, etc. Donc, la notion de responsabilité... si on aborde les choses sous l'angle élulien, on va dire, elle incombe d'abord aux citoyens, mais dès le départ, en amont, pas. C'est trop, je dirais, c'est déjà trop tard quand on se dit, bah oui, il se passe là, on contrôle. Non, c'est dans nos vies personnelles, dans notre mode de vie, c'est là où on est le plus militant, en fait. C'est dans le fait de... Est-ce que j'ai besoin de ça? C'est la question militante par excellence. Le drame, je dirais, c'est de prendre ses désirs pour des besoins. Pas des désirs pour des réalités. C'est de prendre ses désirs pour des besoins. C'est de croire qu'on a besoin de ça et en fait que c'est un désir. Alors, après, qu'est-ce qui anime ce désir? Donc, c'est le confort, la sécurité, et puis aussi, peut-être aussi, la volonté de puissance. Alors, ce qui veut dire que si on essaye les uns et les autres de voir comment on peut contrôler ce processus, ça n'est peut-être pas tant en allant consulter tel... comment dirais-je, tel organisme, la commission de Bruxelles, ou je sais pas quoi, ou tel député, etc. Pourquoi déléguer? Mais c'est déjà, s'il y a un changement à opérer, c'est au niveau de chaque personne. Voilà. Alors, je dois préciser que dans l'œuvre de Jacques Ellul, l'œuvre de Jacques Ellul se subdivise en deux parties. Enfin, essentiellement deux parties, une partie d'ordre sociologique, surtout axée sur le phénomène de la technique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit trois grands livres en 1954, 1977, 1990, 1988. Évidemment, pendant toutes ces années, le paysage change, la technique change, d'accord? Donc, il a un regard qui évolue avec les choses. Et une œuvre théologique, parce qu'il était chrétien, protestant, et l'œuvre théologique, elle est axée sur la liberté, justement. Alors, c'est un autre... c'est pas le sujet ici, mais c'est important de savoir que Jacques Ellul se pose... En gros, il dit la liberté au sens où on l'entend communément, c'est-à-dire telle qu'elle est véhiculée par le libéralisme, c'est une liberté prétexte. C'est la liberté du renard, le renard libre dans le poulailler libre, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout est basé sur une justification. Alors, le principe de la justification est fondamental chez Ellul. Il dit toujours, quand l'homme croit bon, nécessaire de se justifier ou de justifier quelque chose, c'est qu'au départ, la situation n'est pas juste. Et en fait, quand on dit... je reviens aux bourgeois qui disent... qui propagent... Ils en sont convaincus. Hein. Je précise que quand le bourgeois propage l'idée que le travail est une valeur, il en est intimement convaincu lui-même. C'est très important. On a souvent, bien sûr que c'est un dominateur, il a le pognon, il a le pouvoir, etc. Il n'est pas question ici de mettre de côté les rapports de domination. Mais les rapports de domination sont eux-mêmes, sous la coupe des rapports d'aliénation. C'est-à-dire que le dominateur est aliéné autant que le dominé. D'accord ? Voilà. Alors écoutez, peut-être là, ce que j'aurais d'autres choses à dire, mais j'aurais envie peut-être de marquer un petit break et de vous donner la parole. Plutôt, je préférerais que ce soit sous la forme d'un échange, si vous voulez bien. Hein. Alors, sur la question du profit, au début de... Ça marche là, vous m'entendez ? Oui. Au début de son livre « La technique ou l'enjeu du siècle », qui date de 1954... Tout début, dans les premières pages, Ellul a cette phrase, il dit « Il est vain de déblatérer contre le capitalisme, ce n'est pas lui qui crée ce monde, c'est la machine. Et un peu plus tard, il nuance légèrement son propos, il dit, dans un autre livre, quelques années plus tard, il dit « Le capitalisme peut durer encore 10, 20, 30 ans. Ce n'est plus lui qui est déterminant. Il est façonné par la technique et par le fait que la technique est autonome. » Et ça, cette idée-là, elle est chez Hélule et Charbonneau, elle est présente dès les années 30. Et quand ils disent « il est vain de déblatérer contre lequel », c'est-à-dire il est vain surtout d'opposer le capitalisme au contre-modèle d'alors, c'est-à-dire le communisme, dans la mesure où le communisme est un capitalisme d'État. C'est-à-dire que peu importe qui détient les capitaux, que ce soit que les capitaux soient privés ou publics ou étatiques, peu importe, il y a capitalisation. Le problème, c'est la capitalisation. Et peu importe que les capitaux, et pour cause, la Russie soviétique, non seulement n'a pas instauré la dictature du prolétariat comme elle l'a indiqué, mais elle a créé le prolétariat là où il n'existait pas, et elle a exercé sur lui sa dictature. Et elle a fait travailler, est-ce qu'il n'y avait pas aux États-Unis, il y avait en Russie, c'était les goulags, les camps de travail, etc. C'est-à-dire que là, c'était pas l'idéologie du travail, c'était le travail forcé. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Américain était, on n'avait pas besoin de le mettre dans le goulag, il était persuadé que le travail était une valeur. Mais il fallait utiliser la pression de l'État. Hein, et faut pas me dire à moi, Lénine, Staline, ce sont des accidents, etc. Vous voyez toujours que dans l'économie, on va dire socialiste au sens large, il y a toujours l'État qui va imprimer la valeur travail. Le vrai problème, c'est la valeur travail. D'accord ? C'est cette idée, c'est il faut travailler. Alors après les profits, bien sûr, mais les profits. Hélule, dans ce livre, 1954, donne ses définitions de la nouvelle définition de la technique. Il dit, une majorité de nos contemporains recherche l'efficacité maximale en toute chose. La technique, c'est je recherche, souvenez-vous de la définition initiale au début de mon exposé, il faut qu'un outil soit efficace. Mais là, c'est la recherche de l'efficacité maximale en toute chose. Ça devient, on va dire, quasi obsessionnel. D'accord ? Cette recherche de l'efficacité. Alors, évidemment, décliné de manière différente d'un individu à un autre, il est urbain, il vit à la campagne, etc., il est cultivé, pas cultivé, mais en gros, c'est ça qui se développe. Alors, le profit, l'efficacité maximale, ça va déboucher, si vous voulez, dans l'économie libérale, sur ce qu'on appelle la thèse de l'efficience des marchés. Il faut qu'un marché soit efficient, c'est-à-dire qu'il soit efficace. Donc un marché, en termes du capitalisme, au sens le capitalisme le nôtre, le capitalisme privé, ben, il faut que ça rapporte. Et l'argument, il faut que ça rapporte pour que, évidemment, ça soit réinvesti. Alors après, évidemment, les capitaux redirigés vers l'investissement, mais c'est l'argument. Et c'est ça qui fait que ça marche. Vous comprenez ? Non seulement il y a préséance de la technique par rapport à la science, mais il y a préséance aujourd'hui de la technique par rapport à l'économie et par rapport à la politique. C'est-à-dire que le politique aujourd'hui, alors en 1965, Jacques Ellul écrit ce petit livre qui s'appelle « L'illusion politique », un titre qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que le politique, il ne fait que finalement ratifier ce que ce que disent ses cabinets, ses experts, il n'a plus de pouvoir. L'économiste n'a plus de pouvoir, il est dépassé par la finance, et même le financier, hein, je faisais allusion tout à l'heure, est dépassé par les algorithmes de ces ordinateurs. Donc, alors évidemment, c'est une thèse qui n'est pas... Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, Hannah Arendt davantage, mais ceux que je viens de citer précédemment sont des auteurs peu connus. C'est-à-dire que cette idée-là, que la technique est autonome et qu'elle nous dépasse et qu'elle nous aliène, il faut le dire, il faut nous le dire, il faut peut-être en débattre ce soir, est-ce qu'elle n'est pas finalement foncièrement indispensable ? Est-ce que viscéralement, les individus que nous sommes, nous ne voulons pas à tout prix croire que nous sommes libres ? C'est-à-dire que cette idée que nous puissions être aliénés par quelque chose, est-ce qu'elle ne nous est pas finalement insupportable ? C'est la question que moi je vous pose, enfin que je me pose moi-même et que je souhaite qu'elle se développe. C'est pour moi la question la plus importante, de, je ne dirais pas dans ma vie, mais dans ma vie militante, oui, c'est ça.
Finalement, ce que tu dis, c'est peut-être plein d'espoir, parce que ben, si j'ai bien compris, on est responsable et on a les moyens de limiter cette utilisation de la technique, ne serait-ce que par la prise de conscience. Souvent, tout à l'heure on l'a dit, hein, souvent on nous dit mais qu'est-ce qu'on peut faire devant tant de catastrophes potentielles. Peut-être que là, il y a un axe directeur de réflexion, mais surtout, bien au-delà de la réflexion, de pratique.
Alors, ça va plus loin que l'utilisation. Ellul et Charbonneau et Anders, 2 ans après, dans l'obsolescence de l'homme, en 1956, disent presque mot pour mot la même chose. Ils disent, la question de dire la technique n'est ni mauvaise, tout dépend de l'usage, de l'utilisation qu'on en fait, cette question, c'est une mauvaise question. Parce que elle est dépassée. Alors, elle reste pertinente quand même. Hein, je veux dire, à partir du moment où je fais constamment une utilisation de ma laisse électronique, évidemment, y a un problème. Il faut que je maîtrise l'usage. Mais même si je maîtrise l'usage, je suis dans un environnement technicien. Et je n'y échappe pas. Je vais dans mon travail, j'ai 30 ans de carrière, je suis enseignant. Mon métier aujourd'hui n'est plus le même. Je passe un temps fou à faire de la paperasserie, de l'évaluation, de machin, des tas de trucs dont je vous le dis franchement, je ne vois pas trop à quoi ça sert. On perd du temps, on voit moins les élèves, etc. Bon. Et ça, c'est ce qui m'arrive à moi, c'est ce qui nous arrive à nous. Ce qui est très important, c'est que la technique dépasse. Il faut bien comprendre que chez lui, la technique dépasse le stade strict du machinisme, de la technologie, justement. C'est-à-dire que la technique, elle a partie liée avec... c'est devenu une opération mentale. Et ça, en cela, pour ceux qui connaissent, Jacques Ellul est vraiment dans l'affiliation de Max Weber. C'est-à-dire que nous sommes... S'il y a le développement de la technique, il y a surdéveloppement de la rationalité. D'accord ? D'accord ? C'est parce que la raison a été, au fil du temps, et notamment à partir du 17e, Descartes évidemment, mais du 18e siècle, la raison a été hypertrophiée au détriment de l'irrationnel. Et l'irrationnel joue un rôle en quelque sorte de soupape, notamment dans l'art. Et donc moi, vous parliez de ma formation artistique, notamment en histoire de l'art. Ce n'est pas pour rien que le romantisme apparaît, et notamment, et puis si vous regardez la peinture anglaise, la Grande-Bretagne, c'est la première puissance industrielle, vous regardez le nombre de peintures, des chevaux, des animaux dans la nature, etc. L'art vient en quelque sorte comme contrepoint, comme soupape, après 5 jours de boulot à l'usine, on va chercher le week-end pour se reposer. C'est la soupape. L'art joue un rôle de soupape. Et c'est un leurre. Je suis venu, moi, à la lecture d'Ellul par un livre qu'il consacrait à l'art moderne. Et c'est un leurre de croire que l'art est libératoire. C'est juste un mouvement de compensation. Et je vais même plus loin, si on regarde l'art contemporain, si vous regardez bien l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain, n'est-ce pas, c'est subventionné par l'État et par les grands patrons, Pinault, etc. C'est-à-dire, regardez comme tout est possible, regardez comme nous sommes libres, regardez comme nous sommes ouverts à toutes les expressions. Je prends une boîte de caca, je la mets là, et je vous la montre, et je vous dis que c'est l'art, et tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a, la transgression, le rôle prétendu transgressif de l'art n'est qu'un leurre. Voilà. Donc nous sommes bien dans ce que Ellul appelle un système technicien. C'est un, ça nous façonne. Alors on a beau en être conscient, moi j'en suis conscient, eh bien je dis pas, j'ai aussi ma part d'aliénation. Le boulot, là je vais reprendre le boulot, pourquoi le boulot me pèse, c'est parce qu'il est contraignant, parce qu'il est, il est de plus en plus normé, normatif, etc. Et ça c'est le résultat de la technique. Oui. Moi, je te donnerai la réponse d'Ellul, et puis je te donnerai, parce que c'est important, je l'ai dit, je viens ici pour présenter une œuvre, hein, pour vous donner envie de la découvrir. Hein, donc, c'est pas un gourou pour moi, Ellul, hein, d'accord. Mais c'est vraiment, il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Je vous l'ai dit, il a pris des positions par rapport à l'islam qui me dérange, par rapport à l'homme. Il était un peu réactionnaire, plus homophobe. Il y a d'autres, son rejet massif de la psychanalyse en bloc. Il avait des bonnes raisons de critiquer Freud pour son, on va dire, son scientisme, mais il a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses très très importantes dans la psychanalyse qu'il n'a pas considérées, et notamment qu'il lui aurait été certainement très utile, notamment quand il aborde la question du sacré. Parce que qu'est-ce que c'est que le sacré? Qu'est-ce que c'est que sacraliser? C'est projeter quelque chose au plus profond de soi-même, quelque chose qui vient en deçà de la raison, justement. De le projeter sur une chose. Sacraliser, c'est mettre quelque chose de l'ordre de l'affect, de profond, au-delà de la raison, au-delà de la conscience, et la projeter sur une chose, sur une situation, etc. D'accord ? C'est une projection de la conscience. Enfin, ça, c'est mon approche personnelle. D'accord ? Donc, ce qui veut dire, et c'est par rapport à la citation que vous citiez, Ruth, tout à l'heure, je crois beaucoup, personnellement, que pour ne pas être amené à sacraliser la question, c'est pas seulement une question d'éthique. Le mot éthique vient dans le titre de ce festival. Il faut que je parle plus près du micro. Ce qui est à l'œuvre dans une sacralisation, c'est, on va dire au sens, comme Socrate dirait, c'est le démon, c'est nos vieux démons. On est obligé de l'homme est obligé, je crois, de rencontrer sa part d'ombre. On a tous une volonté de puissance, on a tous une part obscure, l'ombre. Voilà. Et c'est par cette confrontation avec son ombre qu'on devient, je dirais, humain et capable de discerner, d'être lucide sur soi-même, sur les situations objectives. C'est un travail sur soi. Alors, autant... vous voyez, tout à l'heure, je dénonce le travail en tant qu'idéologie, le travail sur la matière, le travail autant je ferais volontiers l'apologie du travail sur soi. Et je dirais qu'il y a, pour moi, un mouvement, s'il devait y avoir un progrès, ça serait dans un équilibre du temps que nous consacrerons entre le travail social, d'accord ? Nécessaire, enfin, répondre aux besoins premiers, etc. Bon, et puis le travail sur soi qui nous permet d'avoir cette lucidité. On a, je crois, beaucoup, moi, une dialectique. C'est Carl Gustav Jung, un ancien élève de Freud, qui appelle ça la dialectique du moi et de l'inconscient. Alors, le reproche que je ferais, par exemple, à Jacques Ellul dit, lui, il dit... On ne peut critiquer foncièrement en profondeur la technique qu'à partir de quelque chose en soi qui transcende la raison. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il ne se définit pas comme un humanisme, et il dit plutôt du mal de l'humanisme. C'est-à-dire que pour lui, l'humanisme, il est foncièrement prométhéen. C'est-à-dire que, encore une fois, ce qu'il reproche à l'humanisme, c'est toujours l'homme qui se justifie, qui se donne des raisons, des bonnes raisons. Et donc, encore une fois, dès qu'on justifie, c'est qu'au départ, la situation n'est pas juste. Il dit, le premier péché, si on peut dire, c'est le mensonge à soi-même. C'est on se raconte des histoires. Donc, il est méfiant par rapport à l'humanisme, parce qu'il dit, finalement, selon l'homme, il va toujours se trouver de bonnes raisons. Donc, il faut quelque chose qui transcende la raison. Alors, lui, personnellement, c'est sa foi chrétienne. Et... je dois dire, je suis chrétien moi-même, et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. dans la mesure où j'en parle juste très brièvement, je retrouve dans la Bible, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, une incitation à désacraliser tout, enfin, tout ce qui est sacralisé par la société, il faut le désacraliser. Je pense à une phrase, petite phrase de Saint Paul que j'aime beaucoup, qui est dans l'Épître aux Romains, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, méfiez-vous ». Le siècle présent, il est toujours guidé par il faut pas se conformer à ça. Il faut porter un regard neuf, toujours ravivé sur le monde, etc. Donc il faut pas se conformer, il faut être attentif au présent. Il faut l'analyser, il faut même le disséquer, mais il faut pas s'y conformer. Je voudrais terminer mon exposé sur le titre. Alors, tu m'as taquiné là-dessus tout à l'heure sur le titre, parce que le titre que j'avais prévu initialement, tu peux me le rappeler, c'était... Ah oui, Sacré technique et pauvre de moi. Alors oui, parce que d'abord j'avais pris un titre un peu empoulé, et je m'étais fait gronder, on m'a dit non, il va être très où, ils vont rien comprendre, c'est je sais pas quoi, dialectique, je sais pas quoi. Alors j'avais trouvé ce titre que j'aimais bien, et finalement je suis revenu sur le confort moderne au prix du conformisme. Vous comprenez que le conformisme en question, là, après ce que je viens de dire, c'est le conformisme à la technique. C'est-à-dire que le fait de ne pas être lucide sur le fait que la technique est un phénomène autonome, qui se poursuit selon ses lois propres, eh bien, du coup, ça nous rend conformistes. On se conforme à cette situation. D'accord ? On n'est plus du tout dans une situation de résistance, d'opposition, on se conforme. Et conformisme. Alors, sacré technique et pauvre de moi, le titre va dans le même sens. C'est parce que je sacralise, alors là c'est la technique, mais ça pourrait être autre chose, c'est parce que je sacralise quelque chose que je perds en richesse, c'est-à-dire que je me dépossède. À vouloir encenser quelque chose, à vouloir survaloriser quelque chose, eh bien, on est dans l'oubli de soi, dans la mésestime de soi. Donc, en revanche, à partir du moment où on a un regard détaché, je dirais, à ce moment-là, on est plus en harmonie avec soi-même et on peut aborder le monde, enfin, notamment là, en l'occurrence, l'idéologie technicienne avec plus de lucidité. Voilà, c'était c'est le sens de mon propos. Donc, ce que je voudrais bien insister, et c'est là, ça sera peut-être en débat pendant tous ces jours-là, tous ces jours-ci, c'est, vous voyez, ces deux approches par rapport à science citoyenne, deux approches différentes. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est dans un travail de la personne sur elle-même. On n'aborde pas les questions. Il disait, il est vain d'imaginer qu'on pourrait changer quoi que ce soit par des voies institutionnelles. Pour lui, ce n'était pas... Dans la mesure où les institutions, elles sont déjà prises dans l'engrenage. L'État, d'abord. L'État, il était anarchiste parce que pour cette raison-là. Il considérait que l'État massifié... Alors, c'est forcément, si vous voulez, un État, revenons toujours sur le critère de valeur d'un outil, c'est l'efficacité. Un État, pour qu'il soit efficace, il va être centralisé, ramifié, etc. Donc des machines, l'État est une machine, avec des bureaux, un directeur, un sous-directeur, des machins, etc. Et finalement, les informations se perdent, et du coup, l'individu devient c'est le film de Chaplin, devient un rouage de la machine, d'accord ? Pas simplement la machine... La machine, mais un rouage de l'État. Voilà. Autre chose, on a parlé de l'association Jacques Ellul. J'interviens ce soir pour la dernière fois au titre de membre de l'association Jacques Ellul, que je vais quitter pour m'investir dans une autre association que nous fondons avec 40 personnes, dont Jacques Testard qui était cité tout à l'heure, qui s'appelle Technologos, qui sera créé le 8 septembre à Paris. Alors Technologos, le nom. Technophobe, technophile. Élu n'est pas un technophobe, je ne le suis pas non plus. Puisque, je vous rappelle peut-être pour moi une des citations les plus importantes de Jacques Ellul, c'est « Ce n'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré qui nous transférait la technique. Ce n'est pas le sacré qui nous a servi, ce n'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré transféré à la technique. » Donc la technique, ce n'est pas le fond du problème, c'est ce qu'on transfère. Donc il ne s'agit pas d'être, c'est aussi stérile d'être technophobe que d'être technophile, ça ne sert à rien. C'est comme si être pour ou contre l'air qu'on respire. Ça ne sert à rien. En revanche, ce qui est important, c'est d'être technologue. C'est-à-dire de tenir un discours critique sur la technique. Et alors, dans son dernier livre sur le sujet, Le bluff technologique, en 1988, le titre est un peu ironique parce qu'il dit, on était dans les années 80, le mot était sur toutes les bouches, technologie encore aujourd'hui. Il disait, mais d'abord, c'est un mot absurde. Parce que ça ne veut rien dire. Techno, technique, logos, discours, la technologie, c'est le discours sur la technique. C'est absurde de dire les technologies. C'est absurde. C'est un mot tout à fait inapproprié. Mais en revanche, en tant que membre fondateur de cette association, Technologos, je me revendique comme technologue, c'est-à-dire comme critique sur le phénomène technique. Et je pense que si... je m'investis dans cette action dans la mesure où je considère, comme Jacques Ellul, que la technique est l'élément le plus déterminant, bien plus que la politique, que le pognon, que la science, que c'est l'élément déterminant parce que c'est un processus autonome. Alors évidemment, tout ça peut être largement discuté. Gilbert Simondon est souvent cité, comme Lewis Mumford par exemple, par Ellul. C'est-à-dire que Simondon a joué un rôle important dans la réflexion d'Ellul, il le cite. La technique devient autonome grâce. Principalement, j'ai parlé du XVIIIe siècle, mais elle devient autonome en gros après 1945, après la Seconde Guerre. Grâce aux automatismes, ou à cause des automatismes, d'accord, l'automation, d'accord. Simondon a pointé son regard, pointé son analyse surtout sur cet aspect-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne le connais pas plus que ça. Mais ça va venir, je vais travailler dessus. Il fait partie des références de Technologos. Merci à vous.